notre présent historique, est fait de cet échange entre des anticipations, j'emploie l'expression d'un auteur allemand contemporain, Koselleck, qui parle d'horizon d'attente. C'est dans la mesure où nous avons un horizon d'attente qui nous projette vers un avenir personnel, collectif, de l'humanité entière, que nous pouvons avoir un rapport créatif avec des héritages du passé.
Il y a donc un choc en retour de nos attentes sur notre mémoire, nos traditions et, d'une façon générale, nos héritages.
La voix et la mémoire de Paul Ricoeur en ouverture de cette grande table des idées. Le monde change et pour saisir l'ampleur de ces évolutions, troisième épisode d'une série sur l'ubérisation de nos vies. Comment les transformations liées aux nouvelles technologies et au progrès de l'intelligence artificielle nous amènent-elles à repenser des questions vieilles comme le monde, avant-hier la guerre et la paix, hier l'intimité, demain la famille. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment préserver la mémoire du futur? Nos invités, Xavier Boissel, tout d'abord professeur de français, romancier, auteur aux éditions Un culte de capsules de temps, ces petites boîtes scellées et enterrées à destination des générations futures. Il s'interroge, de quoi sont-elles le symptôme? Bonjour Xavier Boissel.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés. Et en duplex avec nous de Caen, Francis Eustache, chercheur en neuropsychologie, directeur d'études à l'EPHE, spécialiste de la mémoire humaine et de ses maladies. Il a dirigé aux éditions Le Pommier l'ouvrage La mémoire au futur, parce que la mémoire, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas uniquement tournée vers le passé. Bonjour Francis Eustache.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Les capsules du temps, Xavier Boissel, c'est une vieille tradition, beaucoup plus ancienne qu'on pourrait l'imaginer, même si on n'arrive pas précisément à dater la première.
C'est difficile, en effet. C'est une tradition qu'on pourrait faire remonter jusqu'à l'Antiquité et jusqu'à la Mésopotamie, puisque dans cette période antique, on avait coutume de placer des objets dans le bâti, dans les murs des bâtiments, avec souvent des textes, des messages à destination des générations futures.
C'est une vieille pratique, mais qui a refait surface, si on peut dire, depuis plus d'un demi-siècle, et notamment aux États-Unis, très présente, ces capsules du temps, avec l'idée peut-être de faire mémoire, d'archiver en les enterrant des fragments du temps présent qui seront relus plus tard et peut-être autrement. Vous pensez que c'est ce qui motive ceux ou celles qui réalisent ces capsules du temps?
Disons qu'il y a plusieurs motivations. On pourrait penser dans un premier temps qu'il y a d'abord une vocation testimoniale. Il s'agirait de témoigner d'une époque, d'enfouir des objets qui seraient emblématiques d'une période donnée. Donc ça pourrait être aussi bien testimonial, mais il y a aussi une volonté parfois de sauvegarde. Là, on serait plutôt dans une perspective patrimoniale. Et puis on a enfin une vocation qui serait plutôt prédictive. Parfois, certaines capsules de temps qui ont été scellées, enfouies dans les années 50-60 aux États-Unis contiennent des documents totalement extravagants qui sont futuristes et qui essaient d'imaginer le futur. Donc ça ressemble parfois même à de la science-fiction.
Et alors vous racontez que, bien sûr, qui dit capsule du temps dit chasseur de capsule du temps. La plus vieille capsule retrouvée aux États-Unis à ce jour, elle daterait de 1795. C'était ça?
Oui, elle est située en dessous du MIT, donc dans le Massachusetts. Et c'est effectivement à ce jour la plus vieille, jusqu'à ce qu'on en retrouve une autre, mais que c'est la plus ancienne qui a été scellée sur le territoire nord-américain.
Retrouvée il y a 4 ans, et qu'est-ce qu'il y avait dedans?
Des documents, souvent, alors c'était très, très anecdotique, des manuscrits, des pièces, enfin des choses qui témoignent de l'époque. Ce ne sont pas des trésors. Les capsules dedans, ne représentent pas. On pourrait penser effectivement que les chasseurs de capsules sont des chasseurs de trésors, mais ce ne sont pas des pièces, de l'argent. Enfin, ce sont des documents souvent anecdotiques.
Alors, il y a un effet de mode aujourd'hui avec ces capsules de temps qui sont devenues des objets mis à la portée de tout le monde, popularisés par la pop culture. Mais vous nous précisez bien que cette capsule de temps, pour vous, elle interroge surtout notre rapport au temps, au passé, au présent et au futur, avec peut-être une manière de spéculer à travers elle sur l'avenir. On va y revenir. Cette question des temporalités, c'est aussi ce qui est au cœur de vos recherches. Francis Eustache. Alors, est-ce que déjà vous avez réalisé votre propre capsule de temps? Qu'est-ce que vous mettriez dedans, Francis Eustache?
Je n'ai pas réalisé une capsule au sens propre, mais je pense que le travail que je fais avec mon équipe depuis des années, j'ai presque envie de dire maintenant des décennies, ça correspond à ces capsules de temps. C'est-à-dire que le travail que l'on fait de recherche sur la mémoire, c'est un jeu avec le temps. La mémoire, c'est l'espace et le temps. C'est voyager dans l'espace et voyager dans le temps et voyager vers les autres. Donc c'est ce travail que l'on fait, disons, par recherche interposée.
Vous avez d'ailleurs cette très jolie formule, Francis Eustache, la mémoire est avant tout un voyage mental qui nous permet d'agir. Revenons juste sur le titre de cet ouvrage collectif, la mémoire au futur ou mémoire du futur, pourrait-on dire aussi. Pourquoi en tout cas cet oxymore? Parce que c'est vrai que la mémoire est quand même traditionnellement associée au souvenir, à tout ce qui se réfère au passé. Pourquoi cet oxymore? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre rapport à la mémoire?
Alors en fait, oxymore paradoxal, parce que quand on réfléchit, par exemple ce matin, je me suis réveillé ce matin, je suis venu ici dans les studios de Caen, ma préoccupation, ou l'une de mes préoccupations, c'était cette émission de France Culture, parler du livre, parler de la mémoire au futur. C'était pas ce qui s'est passé hier, bien entendu. Ma mémoire du futur, elle va être alimentée par ce jeu de temporalité. Elle va être alimentée par mes connaissances générales sur la mémoire, par les souvenirs de ce qui s'est passé à tel ou tel moment. Mais ma préoccupation majeure, la préoccupation majeure de ma mémoire, elle est orientée vers le futur. Donc oxymore, oui, mais oxymore en fait superficiel, paradoxal. Parce que ce qui va me conduire, ce qui va me propulser, c'est pas regarder mon passé. Sauf peut-être dans des moments particuliers de ma vie, dans des situations de deuil ou de rupture existentielle, où là je vais davantage me tourner vers mon passé. Mais de façon générale, j'ai envie de dire quand je vais bien, je suis essentiellement tourné vers le futur.
Est-ce qu'on peut dire, Francis Eustache, que la mémoire telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas forcément d'avenir, qu'en revanche elle a un futur?
Alors ça c'est un jeu de mots qui est utilisé notamment dans le livre par Bernard Stiegler, parce que le livre auquel vous faites référence c'est un livre collectif, comme tous les livres que nous écrivons dans le cadre de l'Observatoire B2V des mémoires. Et Bernard Stiegler utilise ce jeu entre l'avenir, qui est une sorte d'avenir objectif, qu'il conçoit de façon relativement pessimiste, et puis le futur que nous prenons en main. Donc, moi, je conserve l'optimisme. Je conserve l'optimisme parce que je conserve l'idée de solidarité, l'idée de capacité à réagir, etc. Mais c'est vrai que dans ce livre, qui est avant tout consacré à la mémoire du futur, ou à la mémoire au futur, c'est-à-dire au concept même que nous avons commencé à, sur lequel nous avons commencé à réfléchir là ensemble dans l'émission. Ce livre était d'abord consacré à cela, et puis en fait, étonnamment, il y a un sujet qui s'est invité dans le sujet. À partir des sept auteurs du livre, c'est vrai qu'il y a ce sujet du péril en la mémoire du futur, de protégeons notre mémoire du futur, qui s'est invité, et notamment avec le chapitre de Jean-Gabriel Ganassia, qui est spécialiste d'intelligence artificielle, et qui montre le changement dans notre mémoire, et notamment le changement dans l'équilibre entre nos mémoires internes, qui doivent rester prévalentes, notre mémoire qui permet de faire la synthèse, qui nous permet d'avoir des opinions, c'est la mémoire de notre libre arbitre, mais c'est aussi la mémoire qui nous permet d'anticiper, de prendre des décisions pour nous-mêmes, mais aussi des décisions qui ont un intérêt collectif, eh bien cet équilibre mémoire interne et mémoire externe se trouve aujourd'hui menacé, fragilisé, en tout cas modifié. Et ce thème est devenu, donc, c'est invité en quelque sorte dans le livre. Bernard Stiegler a beaucoup réagi, Denis Péchanski, historien, apporte également une pierre très très intéressante. Et puis, avec mes collègues neuropsychologues et neurobiologistes, nous apportons également des éléments de réflexion à partir des travaux de neurosciences modernes.
Voilà, si je reprends justement le titre de la contribution réunie ici dans cet ouvrage collectif, La mémoire au futur de Denis Péchanski, Mémoire du futur et futur de la mémoire, est-ce qu'on peut dire, et on l'a évoqué ces derniers jours, je vous disais, à travers une série d'émissions sur cette question de la disruption, de l'ubérisation de nos vies, est-ce que vous diriez que la mémoire est à son tour en passe de se faire ubériser? Quelle rupture, en fait, le progrès technologique, le numérique, sont en train de provoquer dans notre rapport au passé, Francis Eustache? Et après, je donnerai la parole à Xavier Boissel.
Oui, comme vous le dites, c'est un progrès. Le progrès numérique, le progrès de l'intelligence artificielle, c'est un progrès qui change notre vie, qui change nos métiers. Moi, je suis chercheur et en 10-15 ans, notre métier de chercheur a complètement changé et en bonne partie de façon positive. C'est-à-dire que ça permet bien entendu des travaux qu'on ne pouvait pas faire auparavant, des échanges notamment avec des chercheurs de par le monde qui étaient beaucoup moins aisés auparavant. Donc il y a tous ces aspects qui sont extrêmement positifs. Mais il y a un point qui est plus difficile à comprendre et à synthétiser, c'est la vitesse. C'est la vitesse où ce progrès se répercute dans nos sociétés avec une certaine inertie, au contraire, de nos sociétés et même de nos psychologies individuelles. Et la notion de disruption qui est avancée là aussi par Bernard Stiegler, elle signifie cela. Elle signifie pas, évidemment, un refus de ce progrès. Ce progrès, il est là. Il faut pouvoir l'accompagner. Mais la difficulté à pouvoir l'accompagner, c'est cette rapidité des moyens techniques, des outils, en quelque sorte. On est dans une situation où le progrès des outils, contrairement à tout ce qui a pu se passer auparavant dans l'histoire de l'humanité, le progrès des outils va beaucoup plus vite que nos capacités, à la fois individuelles et collectives, d'assimilation.
Xavier Boissel, vous rappelez également dans votre ouvrage Capsule de temps que ces capsules sont elles aussi entrées dans l'ère de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exemptes des effets éventuels des nouvelles technologies et du numérique. L'heure est plus à l'enfouissement aujourd'hui, il serait plutôt à la compression des données.
Absolument, j'ai été très sensible au fait que Jean-Gabriel Ganachia évoque le projet de Peter Kazansky, qui est un universitaire anglais de Southampton, qui a l'intention de compresser dans un CD-ROM inaltérable un nombre vertigineux d'informations. On va donc, Francis Eustache l'a dit, vers une avec cette externalisation de la mémoire sur des supports numériques, on va vers une miniaturisation de plus en plus étonnante, et ça pose de gros problèmes. Alors effectivement, on peut reprendre ce terme de disruption qui est celui de Bernard Stiegler. Les problèmes qui se posent, ce sont ceux de la précarisation de la mémoire humaine. C'est une problématique qu'on retrouve depuis Socrate, depuis Platon, avec ce fameux texte de Socrate sur l'écriture, qui va faire en quelque sorte que notre mémoire va être fragilisée. Il y a d'autres problèmes aussi qui se posent, c'est celui de ces supports matériels. Est-ce que le big data, le cloud sont des supports matériels inaltérables? Là aussi, on sait que ça peut durer une centaine d'années, que ce sont des supports qui sont voués à l'obsolescence. Donc ça pose toujours ce problème posé par la pérennité des supports. Et puis enfin, il y a la question de savoir, c'est la question de l'archive, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit trier, voilà. Et au nom de quoi et qui peut se permettre de trier en fonction de quels critères. Et tout cela, effectivement, peut fragiliser notre rapport au temps de manière disruptive, comme le dit Stigler, assez clairement.
Cette idée du stockage numérique, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que l'idée d'avoir une mémoire externe puisse être un élément fragilisateur pour nos mémoires internes.
Oui.
On aurait tendance à penser qu'au contraire, elles viennent comme béquilles ou comme support et qu'elles nous permettent de garder une mémoire du présent et de la projeter dans le futur, beaucoup plus importante qu'il en est. Francis Eustache, vous êtes d'accord avec Xavier Boissel et donc avec Jean-Gabriel Ganassia qui a effectivement travaillé sur cette question.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons toujours eu des mémoires externes. Le principe du fonctionnement de la mémoire, c'est de trouver un équilibre entre notre mémoire interne, celle qui fait la synthèse, celle qui nous permet de défendre une argumentation, et puis des mémoires externes. Et l'écriture, c'est un bon exemple, l'écriture et tout ce qu'elle permet, c'est un bon exemple de mémoire externe. Mais cette mémoire externe, ça a été le récit de Platon a été maintes fois souligné. En fait, cette prééminence de l'écriture a été progressive. Là, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et d'où le concept de disruption, c'est un changement beaucoup plus brutal. Et donc, qui permet comme ça ce déséquilibre, ce déséquilibre entre la mémoire interne et la mémoire externe. Alors, il y a la question de la pérennité des supports de l'archive. C'est un élément de discussion, c'est un élément important. Mais je pense que le point majeur, la problématique majeure, c'est plus la fragilité, aujourd'hui, de nos mémoires internes. Ce que montrent la neuropsychologie et les neurosciences, c'est l'importance de cette mémoire du futur. Dans nos capacités de création, dans nos capacités de décision, c'est la capacité que l'on a, disons, à s'abstraire du présent. Le présent est là, mais on a cette capacité à s'abstraire du présent, d'un présent souvent très émotionnel. On le voit, y compris dans l'actualité d'aujourd'hui, hein, de tous les jours, de ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines. Et nous avons, nous humains, cette capacité à nous abstraire de ce moment présent pour échafauder des scénarios plausibles. Et donc, si cette mémoire du futur est mise à mal, pour différentes raisons, il n'y a bien sûr pas une seule raison, on est dans une situation complexe, si cette mémoire du futur est mise à mal, c'est notre capacité même de décision qui est mise à mal.
Et alors vous évoquiez à l'instant juste, Francis Eustache, le dialogue entre Phèdre et Socrate avec l'écriture qui prendrait le pas ou qui serait une menace pour l'oralité et la pratique philosophique, menace qui pourrait se reproduire ou se retrouver aujourd'hui entre ces mémoires internes et mémoires externes qui seraient en train de se créer, ce qu'on peut stocker et la méfiance qu'on peut en avoir. La mémoire du futur, altérée par certaines pathologies, voilà ce qu'on comprend aussi à la lecture de cet ouvrage collectif, La mémoire au futur, Francis Eustache, stress post-traumatique, dépression, quand on broie du noir, en gros, on vit au passé ou dans le présent, mais plus, on n'a plus cette capacité à se projeter. Or, le futur vaut souvent identité positive. Je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire diffusé sur Arte de Raphaël Ithier, Je me souviens, donc je me trompe.
On va prendre un pêcheur, il prend un poisson de 10 cm. Donc, il va mémoriser l'information. J'ai pris un poisson de 10 cm. Le lendemain, si quelqu'un l'interroge sur ce qu'il a pris la veille, comme il est marseillais, il va avoir tendance à exagérer un petit peu. Donc, il va répondre 20 cm. Le problème, c'est que il va mémoriser l'information initiale plus l'exagération. Donc, il va mémoriser en mémoire à long terme un poisson de 20 cm. Quand une semaine plus tard, on va lui demander qu'avez-vous pris il y a une semaine, il va se souvenir d'un poisson de 20 cm. Et comme il est marseillais, il va rajouter un petit peu, et donc ça va faire un poisson de 30 cm. Et il va stocker cette information de nouveau en mémoire à long terme. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une évolution progressive du souvenir.
Alors lorsqu'une information arrive dans votre cerveau, cette information va être consolidée pour créer un souvenir. Ce qu'on a découvert dans les années 2000, c'est lorsqu'on rappelle ce souvenir, il remonte à la surface et il devient fragile. Ce souvenir fragilisé va pouvoir intégrer de la nouvelle information de l'environnement et pour être stabilisé de nouveau en mémoire, il doit subir le mécanisme de reconsolidation. On a donc ici une fenêtre temporelle où le souvenir peut être modifié.
Alors, notre mémoire fragilisée, reconsolidée, extrêmement d'une vraie souplesse, d'une plasticité, cette mémoire, Francis Eustache. Hein.
Moi, je vous parle de Normandie, donc le poisson est un peu plus petit. Cette théorie de la reconsolidation, elle est très intéressante parce qu'elle montre que la mémoire est dynamique. C'est-à-dire qu'on évoque un souvenir, soit on l'évoque dans notre tête, soit on l'évoque avec quelqu'un d'autre, avec des amis, et il est à nouveau reconsolidé, il est rejoué. Alors il faut tout de même la nuancer, hein, cette théorie. C'est une théorie qui est intéressante parce qu'elle montre effectivement que nos souvenirs ne sont pas figés, non, ils ne sont pas gravés dans le marbre, mais en même temps, nous conservons une certaine identité de nos connaissances et de nous-mêmes. Donc il faut nuancer un petit peu les choses. C'est-à-dire que certes, les souvenirs sont rejoués, ils sont modifiés au fil du temps, mais on conserve tout de même des convictions, une identité personnelle qui repose sur notre passé lointain. Donc notre mémoire, en fait, elle permet de faire cette double synthèse. Une synthèse à très long terme, qui fait que nous sommes nous-mêmes sur le long terme, et puis une synthèse qui s'adapte au moment qui passe, au présent, à nos ambitions du moment. Donc c'est cet ensemble qui constitue cette mémoire de nous-mêmes en interaction toujours avec les autres, et c'est là que le lien avec l'autre est extrêmement important. Et si ce lien, d'une façon ou d'une autre, est dénaturé, eh bien il va avoir une influence néfaste sur la mémoire de nous-mêmes.
Xavier Boissel, dans la même lignée, vous précisez que les capsules de temps dont on parlait sont d'abord une mémorabilia. C'est-à-dire que le temps de la capsule de temps n'est pas celui de l'histoire, de l'histoire continue, mais plutôt celui de la mémoire collective. En quoi sont-elles d'abord des supports mémoriels, ces capsules de temps ?
Elles sont des supports mémoriels dans la mesure, donc vous l'avez dit, où elles renvoient à la mémoire collective, hein, à ce que Maurice Alvoax appelait donc la mémoire collective dans son livre, puisqu'elle se situe dans un temps qui serait vu du dedans, un temps qui serait dissocié. En quelque sorte, elles ont un caractère vestigial et elles ne renvoient pas à l'histoire telle qu'elle peut être écrite de manière officielle, institutionnelle, antiquaire. Elles sont comme des reliques qui renvoient à ce que Alvoax appelait une société muette, immobile, et qui sont adossées à un temps plus intime, en quelque sorte. Mais si j'aurais bien aimé rebondir sur ce qu'a dit Francis Eustache, sur cette idée de l'interaction avec les autres, il y a aussi cette idée qu'on peut se penser soi-même comme un autre, et je pense à une capsule de temps qui est très en vogue aujourd'hui, c'est un site qui s'appelle Future Me. Je pense que Francis Eustache a dû en entendre parler. C'est un site dont il suffit d'aller sur ce site. On s'écrit un message, un mail, et qu'on recevra dans quelques années. Tout simplement.
Hein, qu'on envoie à quelqu'un d'autre.
Qu'on s'envoie à soi-même.
À soi-même.
Voilà.
D'accord.
Excusez-moi, oui, j'ai pas été très clair.
Non, si.
Et donc ça s'appelle Future Me. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui va être très exploité par les tenants du développement personnel, et il y a tout un marketing autour de cela, mais c'est très en vogue. C'est très en vogue.
Invité de cette grande table des idées, Xavier Boissel, auteur de Capsules de temps, et Francis Eustache, qui a dirigé l'ouvrage La mémoire au futur, Capsules de temps, apparu aux éditions Inculte, et votre livre collectif La mémoire au futur vient de paraître aussi aux éditions Le Pommier. France Culture, il est 13h20.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jespère.
À partir des travaux pionniers du Canadien Endel Tulving, puis des nouvelles connaissances acquises par l'imagerie cérébrale, on peut mieux définir ce que serait cette mémoire du futur, Francis Eustache. Par quel procédé la mémoire parviendrait à inverser ce que Endel Tulving appelait la flèche du temps. À ce propos, on évoquait les nouvelles manières aujourd'hui de préserver cette mémoire du futur, ces nouvelles capsules du temps aussi. C'est quand même une idée qui est vieille comme le monde, mais surtout très utilisée par la littérature ou par les peintres et les artistes. Je vous propose de revenir sur un exemple, celui des lieux de Georges Perec. Écoutez-le raconter le procédé qu'il avait mis en place.
J'ai choisi des lieux à Paris Et chaque mois, je décris un lieu, je vais à cet endroit-là. Et une fois que j'ai fait la description, je le mets dans une enveloppe. Alors, voilà, j'en suis là pour l'instant. Et je scelle l'enveloppe.
C'est l'enveloppe. Oui.
Alors ça, c'est un projet que j'ai eu donc à la...
Mais pourquoi sont-elles scellées, ces enveloppes?
Pour que je ne sois pas influencé
par la dernière.
Parce que ce que j'attends de ces lieux, c'est trois choses. C'est premièrement, les lieux vont changer.
Oui.
Deuxièmement, moi, je vais changer. Oui. Et troisièmement, mon écriture va changer. Mm-hmm. Donc, il y aura trois vieillissements, trois transformations, trois usures ou trois modifications. Mm-hmm. Et quand j'ouvrirai ces enveloppes à la fin, en 1980, en 82, j'ai l'impression que j'aurais enfermé des bribes. C'est un peu comme, vous savez, ce qu'on fait de temps en temps, ce qu'on appelle les bombes du temps. On enfouit à 5000 mètres sous terre un coffret scellé dans lequel il y a une cassette des Beatles, un petit timbre-poste, un Esquimau. Des archives, des sortes d'archives un peu
hétéroclites
et quotidiennes.
Donc voilà, Xavier Boissel, un exemple que vous connaissez bien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que ces capsules, elles sont jetées dans le temps comme les bouteilles sont jetées dans l'espace, soit à la mer, précisément. Mm-hmm. Il y a cette idée quand même de jouer avec les temporalités qu'on retrouve bien dans les mots de Georges Perec aussi.
Ce qui est très touchant chez Perec, c'est que ce sont des capsules de temps qui ont avorté puisqu'il les a décellées. Donc c'était des enveloppes qu'il scellait avec de la cire de manière très rituelle. Il les a décellés et lui-même a fini par avouer que c'était un échec. Alors il les a décellés pour plusieurs raisons, puisqu'il a utilisé certaines descriptions pour l'écriture d'un livre qui s'appelle W, et puis pour un film qui s'appelle Un homme qui dort, qui est donc adapté du roman au titre éponyme. Mais ce qui est intéressant chez Perec, et ça c'est quelque chose qu'on peut rattacher à sa biographie tragique, c'est que cette obsession de laisser des traces qui a avorté donc dans ces bombes du temps, on peut les retrouver, elles sont ramifiées dans l'œuvre elle-même, dans un livre qui s'appelle La vie mode d'emploi, avec des personnages comme Bartle Booth, qui est en quelque sorte le fils spirituel de Bartleby de Melville et de Barnabooth de Larbeau, donc ce personnage de Bartle Booth, qui a un projet unique, dont la nécessité arbitraire n'a d'autre fin qu'elle-même, c'est-à-dire s'initier à l'art de l'aquarelle pendant 10 ans. Et une autre figure de la vie mode d'emploi, c'est Serge Valène, qui conçoit l'idée d'un tableau d'un immeuble parisien où il vit depuis plus de 50 ans. Et les deux projets, l'un aussi avortent, mais l'un est tourné vers l'origine et l'autre vers la fin, et finalement rien ne subsiste. Et quand on pense effectivement à la biographie de Perec et à ce qu'il a vécu dans l'histoire avec sa grande hache, on ne peut être que touché par cette espèce d'allégorisation de l'oubli, de la perte, de la trace chez lui.
Et de Perec à Andy Warhol, qui lui aussi réalisait ces capsules de temps. Qu'est-ce qu'on apprend de ce rapport au temps? Parce que vous dites que parfois ces petites boîtes sont aussi presque pensées conçues comme des purgatoires. C'est pas le temps qu'on cherche à suspendre, mais on se dirige presque vers la fin du temps.
Chez Andy Warhol, ça relève plus de quelque sorte de l'ordre de la compulsion, c'est compulsif. Il faut rappeler que Warhol ne jetait absolument rien, il mettait des cartons à côté de lui tous les jours et il stockait tout ce qu'il avait sous la main, des flyers, des esquisses, des dessins, des brouillons, des lettres. Et une fois que le carton était plein, il le scellait avec un morceau de scotch et il donnait ça à quelqu'un qui allait mettre ça dans un entrepôt. Et Tous ces objets, il doit avoir à peu près plus de 300 000 objets donc de son quotidien.
Et il y avait de tout.
Oui, il y avait un peu de tout. Même des préservatifs usagés, des fourmis mortes, des timbres oblitérés, des objets en plastique, etc. Donc,
des BD et des vinyles aussi.
Oui, notamment aussi. Il y a 662 cartons qui sont archivés au musée de Pittsburgh, le musée Andy Warhol, en Pennsylvanie. Et effectivement, il y a chez... Alors, on pourrait penser que Warhol est tout pris du syndrome de Diogène, mais il y a effectivement, ça dessine un rapport au temps qui serait plus proche de l'eschatologie chez Warhol, qui a été très marqué par sa culture orthodoxe enfant. Il y a cette idée effectivement qu'il faut sauver quelque chose
on a quelque chose là de l'ordre du biblique. Hein. Ça, on pourrait penser aux paroles de la parole divine hein, dans la Bible. Hein. Et toi, Daniel, clôt ces paroles et scelle l'acte jusqu'à la fin des temps. Les multitudes erreront, mais la connaissance grandira. Donc l'hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est que le corps de Warhol hein, est scellé dans ces capsules, dans ces cartons.
Alors Francis Eustache, moi je vais citer le neurobiologiste Robert Jaffar, citant lui-même Kierkegaard dans vos pages, « La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. Pourquoi faut-il aujourd'hui, pour vous Francis Eustache, préserver cette mémoire du futur ?»
Vous avez cité la dernière phrase du chapitre de mon ami Robert Jaffar, qui est une belle citation. Vous avez cité aussi Hendel Tölving. Hendel Tölving a été, je pense, le premier à mettre le doigt sur cette particularité de la mémoire des amnésiques. Alors, les amnésiques perdent leur mémoire autobiographique ou une partie de cette mémoire autobiographique, mais il a surtout montré, notamment chez un d'entre eux, qui s'appelait Ken Cochrane, qui est aujourd'hui disparu, que ces amnésiques ont cette incapacité à voyager vers le futur. Ken Cochrane disait « Le futur, pour moi, c'est comme si je nage dans un lac. Je nage, mais je ne vois jamais le rivage. » Et je pense que cette notion-là est très importante parce que ça nous permet de mieux comprendre, donc à partir de ce que nous disent les amnésiques, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'est la mémoire et puis le désarroi où nous nous trouvons quand nous perdons cette mémoire. Perdre la mémoire, c'est pas simplement perdre des éléments de notre passé, mais c'est perdre cette capacité que l'on a à nous abstraire du présent et à voyager dans un horizon plausible, faire des projets, prendre des décisions. C'est tout cela à la fois. Donc je pense que avoir mis le doigt sur cet aspect-là et l'enrichir aujourd'hui avec les moyens modernes d'imagerie cérébrale qui conforte hein, cette notion de voyage mental dans le temps, bien c'est une source de réflexion, je pense, pour nous tous, citoyens, extrêmement important. Et donc on voit les enjeux, comme quoi il faut protéger cette mémoire, il faut la protéger, il faut protéger nos enfants, nos adolescents, il faut faire en sorte qu'ils soient pas toujours dans un présent immédiat, qu'ils soient pas toujours en quelque sorte pollués par des informations intempestives extérieures, mais qu'ils conservent cette capacité de réflexion et de projection.
Et comment y parvenir ?
Comment y parvenir ? Je pense par l'éducation. L'éducation, c'est un maître mot. Faire en sorte que d'éduquer les enfants en leur apprenant certes les temps courts, être capable de réagir à des situations, c'est très important pour être adapté à la vie moderne, mais également éduquer sur des temps longs, savoir faire le vide, savoir se concentrer sur un texte complexe, prendre du temps pour réfléchir sur un texte complexe. Choses aussi simples que ménager son sommeil ou, vous voyez, ou ménager des temps de réflexion.
Même remède pour le professeur Boissel.
Oui, ah. Je ne peux aller que dans ce sens. On évoquait tout à l'heure les prothèses mémorielles. Je suis toujours frappé de voir les élèves auxquels je suis confronté au quotidien, quand on leur pose une question, leur meilleur ami, c'est le smartphone, ils sortent le smartphone pour trouver l'information. Et là, si on reprend cette trilogie qui est bien, bien analysée par Bernard Stiegler, qui nous vient de Husserl, intention, rétention, protension, cette trilogie est parfaite. Hein. Donc la protension, c'est ce qui nous permet de nous projeter donc dans l'avenir. Et elle suppose effectivement la rétention, c'est-à-dire une perception immédiate des choses et donc de l'attention.
Merci beaucoup Xavier Boissel. Capsule de temps chez Inculte Édition. Merci Francis Eustache et à nos confrères de France Bleu à Caen qui vous ont accueillis pour cette émission La mémoire au futur, livre collectif que vous avez dirigé. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci aussi à Alexandra Candilonguet qui a réalisé cette émission avec Élise Le. Très bel après-midi à tous sur France Culture.